Radio Courtoisie, histoire à la loupe.
J'ai déjà évoqué dans une autre émission ce qui s'appelle le réalisme magique, notamment avec Gabriel Garcia Marquez. C'est un style littéraire propre à l'Amérique du Sud. Et récemment, j'ai eu la surprise de le découvrir chez un écrivain égyptien, un certain Naguib Mahfouz. Pour vous le faire ressentir, nous allons lire une de ses centaines de nouvelles. Celle-là s'intitule « La chambre numéro 12 ». Alors vous allez voir, ça commence de façon très réaliste. Une dame arrive dans un hôtel et demande à louer une chambre pour une nuit. La description de cette arrivée de la location de la chambre numéro 12 est faite de façon normale, précise. Elle continue avec un dialogue entre le directeur de l'hôtel et son employé, sur un ton de professionnel soucieux de bien faire leur métier. Là, on est en plein dans le réalisme. Mais, insensiblement, se glissent de petites choses anormales. Par exemple, la dame demande à l'employé d'ouvrir en grand l'armoire et de la laisser ainsi. Ces introductions du magique sont faites à petite dose et progressivement. Et je trouve qu'il y a un certain génie de l'auteur pour petit à petit augmenter les doses de mystère, de magie, de bizarrerie, jusqu'à faire basculer le récit dans une sorte de folie supersonique, un peu à la Dostoïevski, ou vous pouvez penser en musique au crescendo de L'apprenti sorcier de Paul Dukas. C'est un exercice qui est difficile de passer d'un style à l'autre. Mais Mahfouz y parvient avec une maestria remarquable. Écoutez bien les petits détails, en particulier l'arrivée à l'hôtel de Saïd, l'aveugle, le croque-mort, l'éclatement des coups de tonnerre pendant la tempête, jusqu'à l'apothéose complètement aberrante ou absurde. Voilà, petite introduction à ce que nous allons vous lire maintenant. Je signale quand même au passage que Mahfouz a eu le prix Nobel de littérature en 1988.
Histoire à la loupe, une émission de Radio Courtoisie, récit de Patrick Simon, montage et arrangement sonore, Sandrine Moutier.
Le directeur de l'hôtel n'oublierait jamais ce jour où une femme était venu louer une chambre pour 24 heures. Il était alors 10 heures du matin. Il lui avait lancé un regard intrigué, car il était rare que des personnes du sexe opposé vinssent là seules. Il n'oublierait jamais non plus combien l'impressionnèrent sa stature, la finesse de ses traits et l'acuité de son regard, alors qu'elle se tenait bien droite devant la réception, avec son manteau rouge et son chapeau blanc. Elle n'avait pas de carte d'identité, n'était ni salariée ni mariée, mais probablement veuve ou divorcée. Elle s'appelait Bahiga al-Dabi et venait de Mansoura. Il nota les renseignements nécessaires et la dirigea vers un employé qui la devança en portant sa valise, une valise d'une taille inhabituelle, pour la conduire jusqu'à la chambre numéro 12 du petit hôtel. De retour une demi-heure après, l'employé avait l'air étonné. Le directeur lui en demanda la raison et il répondit que la femme était bizarre. « Que veux-tu dire ?»
Il dit qu'elle lui avait demandé de mettre le matelas, la couverture et le drap dans un coin de la chambre jusqu'à ce que la nuit tombe. Quant au lit, elle lui avait ordonné de le sortir de la pièce sous prétexte qu'elle ne pourrait fermer l'œil tant qu'il y aurait sous elle un espace assez grand pour que quelqu'un s'y cachât. Il lui avait dit que ses craintes étaient sans fondement et qu'il n'y avait jamais eu le moindre incident dans l'hôtel depuis sa construction. Mais elle avait insisté et il s'était plié à sa volonté.
« T'aurais dû venir me voir avant. »
Il s'excusa en disant qu'il n'avait rien trouvé dans sa demande, en dépit de son étrangeté, qui dérogea au règlement de l'hôtel, et il ajouta qu'elle lui avait ordonné d'ouvrir en grand l'armoire et de la laisser ainsi. Il en avait aussitôt déduit qu'elle craignait qu'un étranger ne s'y enferme à son insu et n'y reste tapis. Il s'était exécuté avec une docilité amusée. Ce qui est étonnant, c'est qu'elle a l'air courageuse et forte.
Le directeur réfléchit un moment et lui demanda « Est-ce qu'elle t'a donné un bakchiche ?»«
Pas moins d'une demi-livre. »
Il est clair qu'elle est hors norme, mais ça n'a pas d'importance.
Et comme je passais devant sa chambre fermée pour aller à la laverie, j'ai entendu une voix derrière la porte qui parlait avec excitation.
Mais elle est seule?
Pourtant, elle parlait sèchement et elle élevait de plus en plus le ton.
Ah, il y a beaucoup de gens qui font ça. Et celui qui parle tout seul n'est pas obligatoirement fou. L'employé hocha la tête sans un mot. Le directeur lui demanda encore « Est-ce que tu as pu discerner quelque chose dans ce qu'elle a dit ?»«
Non, sauf une seule expression. Peu importe. »
Le directeur indiqua d'un signe clair et net qu'il voulait laisser le sujet de côté. Puis il dit à l'employé qui s'éloignait « Soyons encore plus vigilants. Il le faut, en tout cas. »
Le tonnerre gronda. Le directeur regarda le ciel à travers la vitre de la fenêtre. Il était chargé de nuages. L'air était très frais et la pluie allait tomber d'un moment à l'autre. À 1 heure pile de l'après-midi, la chambre numéro 12 l'appela au téléphone.
« Je peux avoir un repas ?»«
Il n'y a pas de restaurant à l'hôtel, madame, mais il y en a un dans la rue. Que voulez-vous, madame ?»«
Un plat de torli, du riz avec une garniture, 1 kilo de brochettes, un assortiment de salades, une galette de pain cuite au feu de bois, du pain du palais, 2 oranges. »
Le directeur commanda ce qui était demandé, tout en s'étonnant de la quantité de nourriture que ça représentait, surtout en ce qui concernait les viandes, qui, à elles seules, suffisaient à nourrir 6 personnes. Il en conclut qu'elle était atteinte de phobie et de boulimie. « Il est possible qu'elle sorte de l'hôtel dans l'après-midi, se dit-il, alors j'en profiterai pour aller jeter un coup d'œil dans la chambre. » La nourriture arriva. 1 heure plus tard, le serveur du restaurant revint chercher le plateau et les assiettes. Le directeur ne put résister à l'envie de regarder les plats. Il ne restait plus rien dedans, si ce n'est des os et de la sauce figée. Il décida de ne plus penser à tout ça, mais il ne pouvait détacher son esprit de la femme, de son physique et de ses bizarreries. On ne pouvait dire qu'elle était belle, mais elle attirait comme un aimant. Il y avait en elle quelque chose qui suscitait la peur, mais aussi la curiosité et même la soumission. Et bien qu'il l'ait vue ce jour-là pour la première fois, elle lui avait laissé une impression de familiarité, comme seuls en laissent les visages ancrés depuis longtemps dans la mémoire. Un homme et une femme s'avancèrent. L'homme lui demanda
« Madame Bahiga al-Dabi, loge-t-elle ici ?»
Il acquiesça et appela la femme. Elle demanda l'autorisation de faire monter les arrivants dans sa chambre. Il était clair que ceci faisait partie de l'élite, au moins d'un point de vue matériel. De l'air venu de l'extérieur s'engouffra avec une force qui fit danser les lustres suspendus dans l'entrée du petit hall. 8 personnes, 4 hommes et 4 femmes, entrèrent aussitôt. La question se répéta.
« Est-ce que Madame Bahiga al-Dabi loge ici ?»
Une fois le coup de téléphone donné et l'accord obtenu, ils montèrent avec dignité, étant du même niveau que les précédents dans la chambre numéro 12. Les visiteurs étaient désormais au nombre de 10, des proches d'une même famille ou des amis ou les deux. Mais Bahiga était assurément une dame peu ordinaire. Pourquoi a-t-elle donc choisi notre petit hôtel, songeait-il. On s'activa dans la cafétéria de l'hôtel et on monta des verres de thé. Certains visages du dernier groupe lui donnaient une impression de déjà-vu, mais il se dit qu'il valait mieux débarrasser son esprit de ce qui concernait Bahiga Hanem. Dès le lendemain, elle ne serait plus qu'un souvenir parmi les centaines d'autres souvenirs perdus dont regorgeait l'hôtel. une dame d'une cinquantaine d'années, à l'allure extrêmement respectable, se trouvait devant lui.
« Est-ce que Madame Baïga-Aldabi est ici ?»
Comme il répondait par l'affirmative, elle dit
« Dites-lui, je vous prie, que la doctoresse est là. »
Il appela la femme, qui l'autorisa à monter. Obéissant à un désir impérieux et soudain, il demanda à la doctoresse, avant qu'elle ne s'éloignât, « Quelle est votre spécialité, madame ?»«
Obstétrique, »
répondit-elle en partant. Il remarqua qu'elle s'était présentée sous son titre professionnel sans mentionner son nom. Alors, était-ce en cette qualité qu'elle allait voir la femme ? Celle-ci souffrait-elle d'une affection gynécologique ? Était-elle enceinte ? Il ne put s'abandonner plus longtemps à ses pensées. Un homme petit et corpulent, à l'air renfrogné, venait d'arriver. Il donna sa profession, entrepreneur, et son nom, Youssouf Kabil, avant de poser la question qui se répétait.
« Est-ce que Bahiga Hanem est là ?»
Après le coup de téléphone habituel, le directeur permit à l'homme de monter avec un soupir ironique et perplexe en guise d'adieu. Un employé de l'hôtel rentra d'une course en tremblant de froid dans son épaisse galabilla rustique. Il dit que l'obscurité s'amassait partout dans le ciel et que d'ici peu le jour allait tourner à la nuit. Le directeur jeta un regard par la fenêtre tout en pensant à la femme de la chambre numéro 12, la femme mystérieuse qui attirait les visiteurs. Et il eut l'impression qu'un esprit insufflant le trouble et l'inquiétude s'était glissé à l'intérieur de l'hôtel depuis qu'elle était arrivée. Il le sentait s'insinuer en son fort intérieur, y réveillant des rêves d'adolescence et des espoirs terrestres à la langoureuse splendeur. Une voix le sortit de sa méditation demandant
« Bahiga Hanem Aldabi est ici ?»
Il vit un homme imposant, drapé dans une guéba et un caftan, le tarbouche en arrière, avec à la main un parapluie gris. Il se présenta ainsi.
« Dites-lui que Saïd, l'aveugle, le croque-mort est arrivé. »
La poitrine du directeur se serra, son corps se crispa. Il maudit l'homme et la femme avec, mais il fit son devoir et lui téléphona. Pour la première fois, il reçut une réponse différente des autres. Et il dit à l'homme « Attendez, monsieur, dans le salon. » Qu'était-il venu faire ? Et pourquoi n'attendait-il pas dehors ? Cela faisait environ un demi-siècle qu'il travaillait à l'hôtel, et jamais il n'avait vu quelque chose de pareil à ce qui se passait aujourd'hui. Et plus que tout, il redoutait que la pluie tombe tellement fort que l'hôtel soit obligé de les héberger pour une durée indéterminée, et en particulier cet homme de la mort. De nouveaux visiteurs arrivèrent, séparément, mais à la suite les uns des autres. Un propriétaire de magasin de meubles, un épicier, un boucher, le propriétaire d'une boutique de parfums et de cosmétiques, un haut fonctionnaire des impôts, le président d'une institution, un journaliste connu, un vendeur de poissons en gros, un courtier en immobilier meublé et l'agent d'une personnalité arabe millionnaire. Le directeur pensa que la femme allait déplacer la réunion dans le salon de l'hôtel, mais elle leur permit de monter. Ils montèrent, les uns derrière les autres. Les employés apportèrent d'autres chaises et encore du thé. Le directeur s'interrogeait. Comment les visiteurs pouvaient-ils s'asseoir ? Se connaissaient-ils préalablement ? Et qu'est-ce qui les réunissait exactement ? Il convoqua le chef des employés et le questionna à ce sujet.
« Je ne sais rien de ce qui se passe à l'intérieur, »
répondit l'homme.
« Les mains attrapent les chaises et le thé avant de refermer la porte en vitesse. »
Le directeur haussa les épaules et se dit que du moment qu'il ne se plaignait pas, sa responsabilité n'était pas en cause. Saïd, l'aveugle, le croque-mort, s'approcha alors de lui et dit «
Je vous prie de rappeler à la dame que j'attends. »
« Elle a promis de vous appeler en temps voulu, » répondit sèchement le directeur. Comme l'homme ne bougeait pas, il appela la femme pour se débarrasser de lui. Il lui rendit le combiné comme elle semblait le souhaiter.
Madame Hanem, l'après-midi est passé et la journée est courte en hiver. »
Il garda l'appareil un moment, le reposa et retourna dans le salon, l'air mécontent. Le directeur regarda la porte du salon avec répulsion et dégoût, le maudissant au fond de son cœur et rendant la femme responsable de l'avoir fait venir à l'hôtel. En descendant pour sortir, certains clients lui firent des remarques au sujet de la chambre numéro 12, s'inquiétant pour leur tranquillité. Mais il les rassura. « Il y a des visiteurs, mais ils vont s'en aller tôt ou tard. Il n'en restera pas un seul ce soir. » Il craignait désormais de devoir entrer en conflit avec ses visiteurs appartenant à la haute société. Le sifflement du vent à l'extérieur et l'esprit de désolation qui enveloppait la rue ajoutaient à sa morosité. Malgré cela, un groupe d'hommes et de femmes apparut à l'entrée de l'hôtel. Ils s'avancèrent vers lui dans leurs manteaux. Son cœur chavira dans sa poitrine. Il leur demanda sans réfléchir.
« Bahiga Hanem Aldabi ?»
L'un d'eux se mit à rire.
« Dites-lui, je vous prie, que les délégués de la Ligue de revivification du patrimoine sont arrivés. »
Le directeur appela la femme et quand elle lui demanda l'autorisation de les faire monter, il lui dit « Ils sont 10, Hanem, et il y a à votre disposition le salon du rez-de-chaussée, qui est assez grand pour accueillir autant de personnes qu'on veut. »«
Mais la chambre est assez grande. »
Les délégués montèrent. L'homme hochait la tête avec perplexité. Le choc se produirait tôt ou tard. La colère du ciel éclaterait dehors. Cet agglomérat hétéroclite dans la chambre numéro 12 ne donnerait rien de bon. Se tournant vers le salon, le directeur vit Saïd l'aveugle glisser vers lui et ses doigts tapotèrent nerveusement le comptoir. Il le mit en communication avec la femme avant qu'il n'ouvrît la bouche. L'entendit se plaindre. Puis se soumettre. Il le laissa reposer lui-même le combiné, mais l'homme lui dit avant de s'éloigner
« Attendre sans rien faire est très ennuyeux. »
Furieux, le directeur l'aurait rabroué si la femme ne l'avait appelé pour demander de les mettre en contact avec le restaurant. La conversation dura quelques minutes. Ils se demandaient s'ils allaient rester dîner et comment ils allaient prendre leur repas. Il aurait bien voulu voir dans quel état était la chambre. C'était un spectacle défiant l'imagination, un spectacle insensé sans aucun doute. Le flux torrentiel ne s'arrêta pas là. Arrivèrent un groupe de professeurs d'université et d'hommes de religion. La discussion étant devenue stérile, il les laissa monter. Cela ressemblait à une farce cauchemardesque. Un homme mystérieux arriva et monta sans passer par lui. Il l'appela, mais il ne se retourna pas. Un employé le suivit, mais s'arrêta lorsqu'il le vit entrer dans la chambre numéro 12. Le directeur sentit qu'il était seul, qu'il avait perdu sa légitime autorité sur les lieux et que le démon des rêves bestiaux frappait violemment à sa porte. Il songeait à demander conseil au chef des employés quand apparut devant lui un homme à la vue duquel il soupira de soulagement. Ils se saluèrent et il dit au nouvel arrivant « Ah, vous arrivez à temps, monsieur l'inspecteur. »«
Montre-moi le registre, »
répondit calmement l'inspecteur. « Il se passe d'étranges choses ici. » L'homme se mit à examiner soigneusement les noms en prenant des notes. « Je suppose que vous venez pour la chambre numéro 12. »
Ah ?
Des choses follement anormales se passent.
Tout ce qui arrive au sein de la nature est naturel.
Il le quitta ensuite en disant
« Si on me demande au téléphone, je suis dans la chambre numéro 12. »
Le directeur était stupéfait, mais en même temps quelque peu rassuré, car ce qui arrivait se passait au vu et au su du gouvernement. Il se rappela qu'il voulait consulter le chef des employés et, au moment où il allait appuyer sur la sonnette, il vit Saïd l'aveugle s'avancer vers lui. Il perdit ses nerfs et lui cria « Je t'ai dit d'attendre jusqu'à ce qu'elle t'appelle !» L'homme sourit avec la servilité de celui qui est habitué aux rebuffades et dit
« Mais l'attente a trop duré. »
Attends sans discuter et rappelle-toi que tu es dans un hôtel, pas dans un cimetière. » L'homme s'en retourna, en prenant son mal en patience. Le directeur repensa au chef des employés, il l'appela et lui demanda « Comment ça se passe dans la chambre numéro 12 ?»«
Je ne sais pas, monsieur, mais il y a beaucoup de bruit. »
« Comment peuvent-ils tenir tous ensemble, alors qu'elle n'est pas assez grande pour eux, quand bien même ils seraient assis les uns sur les autres ?»«
Et je n'en sais pas plus que vous, mais en tout cas, l'inspecteur est aussi à l'intérieur. »
L'homme partit. Le directeur regarda par la fenêtre et vit que la nuit s'était installée. Les réverbères s'étaient allumés et leur lueur brillait faiblement dans l'atmosphère chargée d'humidité et fouettée par des rafales rugissantes. Une file de serveurs arriva du restaurant, emportant les plateaux remplis de nourriture. Son étonnement augmenta, car il n'y avait dans la chambre qu'une table de chevet. Où poser les plats ? Et comment allait-il pouvoir manger ? Un employé lui apprit que la porte de la chambre ne s'ouvrait plus, que l'on introduisait les plats par le battant vitré de la porte, que les rires bruyants agitaient tout l'étage et que tout cela était devenu difficile à croire. L'employé revint une demi-heure plus tard pour lui confirmer que les gens étaient ivres.
« Je n'ai pas vu une seule bouteille. » Peut-être en avaient-ils dans leur poche. Ils chantent, crient et tapent des mains. C'est du tapage dû à l'ivresse, avec de la débauche en plus, car les femmes ne sont pas moins nombreuses que les hommes là-bas.
Et l'inspecteur ?
Je l'ai entendu chanter, une cigarette et un verre.
Le tonnerre gronda dehors. Et le directeur se disait, « Il se peut très bien que je rêve, et il se peut que je sois devenu fou. » Se présenta alors un groupe de gens dont les visages et les vêtements dénotaient l'origine populaire. L'un d'eux demanda
« Est-ce que Madame Bahiga Aldabi loge ici ?»
Le directeur eut un sourire désespéré et appela la femme. Elle le pria de les faire attendre dans le salon et de leur faire apporter des boissons. Il leur indiqua le salon et ordonna qu'on leur serve du thé. Le salon se remplit et l'inquiétude de Saïd l'aveugle augmenta. Le directeur se mit à sourire avec désespoir en marmonnant « L'hôtel n'en est plus un et je ne suis plus directeur. Aujourd'hui est hors du temps alors que danse la folie tant qu'il y a de la viande et de l'alcool. »
La pluie commença à tomber, le ciel gronda et l'asphalte à l'entrée de l'hôtel reflétaient les lumières des réverbères chatouillés par la pluie. Les bruits de pas se succédèrent, des invocations retentirent, hurlées par de jeunes garçons. Des passants se réfugièrent sur le seuil de l'entrée, tandis que la pluie battante cognait sans discontinuer la vitre de la fenêtre.
Il quitta sa place pour s'avancer dans l'entrée et tourna la tête vers le ciel assombri, puis vers la terre. Il vit les trombes d'eau s'y déverser comme des graviers et en raviner les pentes comme le déluge. Cela s'était amoncelé, avait bouillonné et puis avait explosé. C'est une pluie comme il n'en est pas tombé depuis au moins une génération, songea-t-il. Il se souvint d'un déluge semblable, gravé dans sa mémoire depuis l'enfance. Il se rappelait que les transports avaient été stoppés, les rues coupées, et les pièces d'habitation inondées à travers les plafonds vétustes. Il revint à sa place et y resta pour s'absorber dans les registres et la caisse, tout en donnant des ordres pour que l'on surveillât davantage les chambres et la terrasse. Il appela le chef des employés et lui demanda « Quelles sont les nouvelles de la chambre numéro 12 ?»«
Les chants et les rires continuent. Ils sont fous. »
Il aperçut Saïd l'aveugle à la porte du salon et lui cria de sa voix la plus forte « Retourne à ta place !» L'homme le supplia d'un geste de la main, mais il lui cria encore « Et pas un mot !»
Il y eut des coups de tonnerre retentissants comme une explosion de bombe, et la pluie s'abattit avec une intensité folle.
Il se disait avec angoisse que l'hôtel était ancien, qu'il n'avait pas été bâti en béton armé, et que la nuit s'annonçait mal. un employé vint lui dire
« Il y a des plaintes provenant de la chambre numéro 12 à propos des infiltrations dans le plafond qui prend l'eau. »
« Les chansons et les rires se sont tus ?» dit-il avec rage. « Eh bien, qu'ils quittent donc la chambre !»«
Mais ils ne peuvent pas !»
Il le congédia et appela le chef des employés. Il l'interrogea au sujet de ce que lui avait dit l'employé.
« Toutes les chambres prennent l'eau, » dit l'homme. « Je vais mobiliser le personnel pour colmater les brèches sur la terrasse avec du sable. »«
Et la chambre numéro 12 ?»«
Ils sont coincés. Leurs ventres ont trop enflé et cela empêche d'ouvrir la porte et de bouger. »
Dehors, je déchaînais la fureur cosmique. Et dedans, le travail s'était mis en route, les employés portant les sacs de sable. Il arriva alors une chose surprenante et inattendue, puisque ceux qui attendaient au salon se levèrent pour participer à la tâche. Le directeur considéra cela avec d'autant plus de soulagement que Saïd l'aveugle n'y prenait pas part. Une demi-heure plus tard, le chef des employés revint pour l'informer de l'avancée des travaux.
« Il travaille avec beaucoup de zèle. »
Puis, après une hésitation,
« Quant à nos amis de la chambre numéro 12, ils sont en mauvaise posture. Et plus le temps passe, pire c'est. »
Le directeur sentit la colère l'emporter comme soudainement. Elle débordait après la violente tension qui ne l'avait quitté toute la journée. Elle avait pris possession de ses nerfs, de sa chair et de son sang. Il devint fou de colère et ne fit rien pour résister à cette folie. Il cria au maître d'hôtel « Écoute et retiens bien ce que je vais te dire !» L'homme le regarda ébahi et subitement effrayé. « Oubliez la chambre numéro 12 et tous ceux qui sont dedans !»«
Monsieur, les hommes crient et les femmes pleurent !»
Il rugit comme un fauve. « Concentrez-vous sur les terrasses au-dessus des chambres des clients. Quant à la chambre numéro 12, oubliez-la avec tous ceux qui sont dedans !» Le chef des employés hésita une seconde. « Aussi, lui cria-t-il encore plus sauvagement, « exécute mes instructions à la lettre, sans hésitation !» Et il se tourna vers la fenêtre pour regarder dehors. Il vit la tempête déferler au cœur de la nuit, de plus en plus violente. Mais lui était libéré d'un pesant fardeau et avait retrouvé la confiance et la clarté d'esprit.
Histoire à la loupe.